Abdellah Taïa est écrivain et réalisateur. Son œuvre raconte l'homosexualité, l'enfance, la pauvreté, la douleur de l'exil. Et dans cet entretien avec Sophie Bobert, il nous parle de la manière dont son enfance très pauvre, dans une famille nombreuse, influence encore aujourd'hui son écriture.
Mon enfance s'est passée dans un champ où il y avait encore des maisons qu'on était en train de construire. Mon père avait réussi à emprunter de l'argent à quelqu'un qui était important. Mon père travaillait à la Bibliothèque Générale de Rabat. C'était un tout petit fonctionnaire. On pourrait appeler ça le purée urbain, mais pour moi, c'était le début du monde. On n'était pas dans le centre et on était tous entassés, 11 personnes, dans une pièce.
Oui, vous dites 11 personnes parce que vous êtes issu d'une famille nombreuse. Vous êtes le numéro, je crois, 6 ou 7 de la famille.
Non, je suis le numéro 9.
Numéro 9,
on est 10, en comptant une demi-sœur qui n'a pas été élevée avec nous. Oui, on était entassés, mais ce n'est pas un entassage, si je peux dire malheureux, c'était un entassage intense qui donne le goût, le sens de la vie pour toujours. C'était pas modeste, c'était la pauvreté même. Et parce que je me souviens que chaque jour, on se disputait, on se demandait ce qu'on allait manger. Et forcément, les ventres vides, quand il y a 11 ventres vides, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Il faut bien que quelqu'un se débrouille, se sacrifie. Et souvent, c'était la mère. Donc c'était plus que la modestie, c'était la pauvreté totale. Mais pour moi, c'était ça le monde. Alors pour certains, ça peut paraître très étrange qu'un être humain déclare autant de rapports passionnels avec des êtres les plus proches, les sœurs, la mère, le grand frère. Mais moi, je ne sais pas comment les autres font. J'avais ces modèles devant moi, les grandes sœurs, le grand frère. Donc je tirais, je volais tout ce que je pouvais d'eux. Je me sentais, certes, j'étais le petit, que je n'étais pas bien considéré à l'échelle de la famille, mais je me disais, ils sont devant moi, je les trouvais aussi belles pour les sœurs que les stars de cinéma égyptien. Et mon grand frère, pour moi, il avait une moustache, donc c'était un dieu. Et donc je me disais, il est dieu, donc il faut bien que j'entre dans sa chambre et que je vole quelque chose. C'est ça ce qui me motive dès le départ. Comment je vais voler quelque chose?
Mais vous voulez quoi?
Bah, je voulais les habits, je voulais la monnaie, je voulais, par exemple, quand ma mère me donnait 3 petites mandarines à donner au grand frère, bah, j'en volais une. Mes sœurs, quand elles me demandaient d'aller leur acheter quelque chose, je faisais toujours attention qu'il me reste quelque chose. Donc j'étais déjà dans une négociation, manipulation avec la vie et avec la réalité. Je ne me contentais pas du tout de la subir parce que je voulais être là au milieu avec elle. Donc je n'avais absolument pas... Je ne connaissais même pas ce que ça veut dire la France, ni ce que ça veut dire la littérature. Ce que je connaissais, c'est cette pauvreté, ces sœurs, cette petite maison de rien du tout. Et peut-être l'élément extérieur, c'était ces films égyptiens qui passaient une fois par semaine à la télévision marocaine. Oum Kalthoum chante une chanson très célèbre où elle dit « Wa ma naylul matali bibi tamani » Ce n'est pas avec l'espoir qu'on arrive à se réaliser, mais c'est en menant le combat jusqu'au bout que quelque chose arrive. Je pense qu'on devient écrivain justement pour raconter les choses les plus sombres et les plus terribles, et c'est pour cela que la littérature sert à quelque chose. Donc quand moi, je veux aller à Paris et je veux apprendre la langue française, je pense que c'est sur ce chemin-là, de ma mère, que je m'inscris. Comment je vais mener le combat à mon tour? Vous voyez, donc voilà, quand ma mère, vous me dites que ma mère apparaît tout le temps dans mes livres, je vois mal comment elle ne sortirait pas dans mes livres. Puisque le chemin que je suis et que je trace jusqu'à présent, il est exactement celui de ma mère. Le combat et la folie.
Mais elle était d'accord avec vous sur ce plan de carrière, sur ce rêve professionnel d'apprendre le français, de venir vivre à Paris, de passer le concours de l'école de cinéma. Elle vous a encouragé?
Non, ma mère, je n'existais pas pour ma mère. Sur l'échelle de 9, 10 enfants, j'étais le 9e. Donc je ne peux pas, j'étais pas l'élément le plus important de la famille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je m'accrochais à tous ces gens. Parce que pour moi, eux, ils avaient une certaine importance, ils avaient une source, ils avaient quelque chose de l'ordre du pouvoir et de l'amour que je voulais obtenir. C'était un ressort non pas pour devenir écrivain, mais c'était un ressort tout simplement pour survivre et je dirais pour se rapprocher des autres. Parce que c'est ça qui est étrange avec les rapports violents. Dans cette violence, il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement qui naît. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer psychanalytiquement, mais plus on a des rapports intenses avec les autres, plus on crie, plus on s'hystérise, plus on...
On est dans l'intime.
Oui, plus quelque chose de l'ordre de l'intérieur qui désire sortir. Et moi, j'ai vécu dans les cris. Et j'ai vécu dans ma mère qui parle du matin au soir. Donc, je vois mal comment, quand je me mets à écrire, je ne peux pas être dans cette influence-là. Alors, ça peut être de la grande violence qui vous écrase complètement, qui vous empêche d'exister plus tard. Pour ce qui me concerne, j'estime que j'ai réussi à m'en sortir et à sauver ma peau. Mais ce n'est pas une raison pour tourner le dos à ces gens qui, eux, la subissent encore aujourd'hui.
Pas de feel-good book.
Non, 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 non. Je pense que j'arriverai jamais à écrire quelque chose de l'ordre de feel-good ou bien quelque chose de la positive attitude. Ce n'est absolument pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui fait que les gens, dans leurs négociations quotidiennes, arrivent quand même à survivre.
Et Abdellah Taïa vient de publier La vie lente, et c'est au Seuil.